Alors, merci beaucoup à vous quatre, d'abord, de vous de répondre à nos questions. C'est sûr que nous, bien qu'il y a bien d'autres enjeux, ce qui nous intéresse, c'est ce que vos formations ont à proposer pour les gens qui vivent avec des situations de handicap au quotidien. Pour ceux qui l'ignorent, donc, mon nom est Luc Fortin, j'anime Accès libre à Canal M, émission que vous pouvez télécharger en balado. Commençons, tiens, peut-être par une mise en contexte générale, peut-être nous remettre en contexte le 23 juin 1978, compte tenu de la marginalisation trop grande d'une partie importante de la population québécoise, l'Assemblée nationale du Québec adoptait à l'unanimité la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Si je vais trop vite, Madame l'interprète, tirez-moi l'oreille, il n'y a pas de problème. Surtout que vous n'êtes pas loin de celle-ci. Et ce choix-là a été fait à l'unanimité le 23 juin 1978, je le répète. Toutefois, 40 ans plus tard, dans la pratique, forcé d'admettre que malgré une certaine intégration, nous sommes encore loin de l'inclusion souhaitée. Comment offrir aux personnes ayant des limitations fonctionnelles les possibilités de faire leur place à part entière dans la société québécoise? Comment s'y prendre pour y arriver? Et surtout, en avons-nous les moyens? Les difficultés économiques actuelles oblige à faire des choix. Comment les personnes ayant des limitations peuvent-elles se faire entendre dans une période où le ton est à l'austérité? La société a-t-elle intérêt à s'ouvrir aux caractéristiques particulières de ses citoyens? Ce soir, nous espérons entendre comment votre gouvernement prévoit amener le Québec vers la société juste et éclairée, légiférée en juin 1978 à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Premier grand thème, donc, santé et services sociaux. Monsieur Guimond, vous comptabilisez le temps.
Oui,
parfait. Premier petit segment, services dédiés aux personnes ayant des limitations et à leurs proches. Mise en contexte. Malgré des investissements dans l'accès aux services et des efforts d'optimisation de plusieurs établissements, une partie importante des personnes ayant des limitations fonctionnelles et leurs familles attendent au-delà des délais prévus au plan d'accès leur premier service, soit l'évaluation de leurs besoins. Nous constatons que, on se souvient que le « nous », là, c'est la COFAN, le panier de services couverts diminue. L'attente de services mine la qualité de vie des personnes et des familles. Le montant maximum défrayant les services de répit dépannage en soutien aux familles stagne depuis plus de 20 ans. Des jeunes ayant des limitations fonctionnelles vivent en institution ou en résidence pour personnes aînées, faute de ressources pour vivre chez eux. Dans plusieurs régions du Québec, l'offre de services en soutien à domicile est limitée à des services d'aide à la vie domestique et d'aide à la vie quotidienne, malgré les orientations prises dans la politique, chez soi le premier choix. Question : quelle proposition de votre programme adresse l'amélioration du soutien à domicile?
Au hasard pour le premier tour de parole. Coalition Avenir Québec, Mme Picard.
Tout d'abord, je dois dire, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu notre situation, j'ai une petite fille qui est lourdement handicapée aussi à la maison. Donc, je suis énormément bien placée pour connaître la réalité des personnes comportant un handicap sévère, surtout que je connais à la maison. Je suis très fière des mesures que la Coalition Avenir Québec a apportées, veut apporter comme changement. On parle surtout des proches aidants. On parle aussi de tout créer une politique nationale pour les proches aidants, pour leur sécurité, pour leur santé. Et ça, c'est du jamais vu encore au Québec. Je suis très fière de cette nouvelle mesure. Ensuite, concernant le soutien à domicile, on veut injecter beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'on sait que c'est déficient en ce moment. Tout ce qui a rapport avec les mesures d'aide à domicile, entre autres le répit pour les parents, le répit que vos aidants ont besoin, la plupart d'entre vous, mais aussi concernant tous les programmes qui sont inadéquats pour la plupart d'entre nous. Je suis vraiment fière de pouvoir contribuer à tout ça dans l'équipe de la Coalition Envers Québec.
Le temps étant ce qu'il est, on a commencé avec un petit peu de retard. Profitez-en pour vous présenter lors de la première réponse.
Parti libéral.
Madame Charlebois.
Moi, c'est un plaisir de participer parce que, comme vous le savez, j'ai été la ministre responsable au niveau de la réadaptation. Et évidemment, on sait que tout est perfectible dans la vie. On sait qu'il y a des choses qui doivent être améliorées. Cependant, on en a fait beaucoup pendant le mandat. Est-ce que c'est finalité admissible? Non, parce qu'on doit toujours continuer à travailler. Alors, moi, pour moi, de participer à ce débat-là avec vous autres, c'est d'une grande importance parce que ça me donne la chance de pouvoir vous émettre mes opinions, mais aussi nos engagements. Et au-delà du bulletin positif que je crois que nous avons eu, parce que je ne vous ferai pas la liste de tout ce qu'on a fait déjà, puis avec tous les montants rattachés, c'est long. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va accorder 2000 places dans nos engagements, 2000 places de répit supplémentaires dans l'ensemble du Québec, 200 millions supplémentaires pour les soins à domicile. On en a déjà augmenté les soins à domicile. Et là, comment on compte faire ça? Bien, c'est simple. C'est en faisant l'alternative, là, le déploiement et l'embauche de ressources, c'est-à-dire qu'ils puissent faire des ateliers de travail pendant qu'ils sont en formation. Et ça va nous aider justement à ajuster les services, mais ils vont déjà avoir une expérience terrain pendant qu'ils font leurs études. Mais il y a aussi toute la campagne autour de la valorisation des préposés aux bénéficiaires. J'haïs ce terme-là, mais tous ceux qui viennent en aide aux personnes qui en ont besoin. Ce qu'on souhaite faire aussi, c'est trouver la façon d'améliorer la situation des personnes de 21 ans et moins qui sont dans les CHSLD. Il faut former des ressources pour ça, mais il faut former des îlots dans les centres pour pas qu'ils soient mêlés avec les personnes aînées. Je vois mon temps filer. Il y a plusieurs autres engagements, mais grosso modo, là, vous avez le portrait exact de vers où on va aller.
Parti québécois.
Madame Poirier.
Merci beaucoup. Alors, merci de nous accueillir. Merci de tenir ce débat. Je pense que c'est important que l'on puisse partager chacun de nos programmes pour vous et peut-être mieux répondre à vos questions. Moi, je suis Carole Poirier. Je suis la députée d'Oshaga-Maisonneuve. Je suis une députée proche de son monde, dans son quartier, et qui, lors de l'élection de 2012, a fait campagne aux côtés du RICLAC pour assurer l'accessibilité de tous les lieux de votation dans mon comté. Et nous avons gagné. Et j'en suis très fière. Et depuis, tous les lieux sont accessibles. Pour répondre à votre question très précisément, je vous dirais que le Parti québécois a comme mesure phare en matière de soins à domicile l'ajout de 900 000 heures supplémentaires, parce qu'on sait qu'au cours des dernières années, la protectrice du citoyen l'a nommé à plusieurs fois. Ça a été des coupures de services auprès des personnes à la maison et des personnes les plus vulnérables. Alors, comme engagement phare, nous avons décidé de mettre 500 millions de dollars pour assurer que les soins à domicile soient des soins de proximité, des soins de qualité, aussi en renforçant les conditions de travail des préposés aux bénéficiaires, ces hommes et ces femmes qui travaillent auprès de vous et qui ont justement besoin de la confiance du gouvernement pour encourager leur travail. Eh bien, nous, on va travailler avec elles et avec eux, et surtout avec elles, parce qu'on sait qu'elles sont plus nombreuses comme femmes. Alors, le travail des femmes, on va l'encourager et on va faire en sorte justement que les soins à domicile soient de qualité, soient présents et ne soient pas une mesure que l'on peut justement couper à tout moment quand on se donne des objectifs qui ne sont pas nécessairement les bons. Et l'objectif qu'on se donne, nous, c'est la qualité de service.
Merci.
Rassette, à l'autre bout.
Bonjour à vous tous et toutes. Je suis très content d'être avec vous. Vous le savez, je viens de la défense des droits des personnes handicapées et j'espère amener du côté du pouvoir vos préoccupations, vos intérêts. La santé, tous les citoyens et les citoyennes du Québec en ont bavé. Ça, c'est clair. Et c'est pas pour rien que c'est la troisième préoccupation des électeurs et des électrices. Mais j'avouerai une chose. Ceux qui ont payé le plus des coupures en santé, c'est vous. C'est inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle il faut repenser, sans tout chambouler, sans faire de nouvelles réformes, il faut remettre de l'argent là où il faut. Je m'explique. Il y a eu, évidemment, le virage ambulatoire dans les années 90. Il y a eu toutes sortes de réformes qui sont venues après. Il y a eu la création des agences. Il y a eu, bien sûr, cette centralisation très médicalocentriste avec le docteur Barrette. Ça suffit, les réformes. Il existe tout près de nous et bien distribué partout sur le territoire, les CLSC. Les CLSC, qu'est-ce qu'on y fait, là? On fait de la santé de proximité. On évalue les besoins avec des ergothérapeutes en nombre suffisant. On gère les services de soutien à domicile et de soutien aux familles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va remettre de l'argent dans cette structure-là qui existe déjà, qui est performante? Moi, j'ai la chance d'être dans un comté. Clinique Pointe-Saint-Charles, c'est là où le premier modèle a éclos. Ça fonctionne bien. Les gens sont contents. Le personnel n'est pas épuisé. Et imaginez quoi, ils ont même du temps pour faire de la défense de droit. C'est formidable. Le CLSC, il faut le réinvestir afin qu'il soit ouvert 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Il faut remettre pas de l'argent dans les hôpitaux, pas de l'argent aux médecins spécialistes du Québec. Il faut remettre de l'argent dans les CLSC et, s'il vous plaît, à hauteur de 1,5 milliard, rien de moins. Vous savez, tout ça, c'est important. Moi, j'ajouterais que ça ne sera pas suffisant. Mais il reste qu'il faut au moins arrêter de brasser le monde. Il faut être attentif, avoir du temps. Et au-delà de l'argent là, dont je vous parle, c'est la posture qu'on a en CLSC. On a du temps pour donner des services psychosociaux. On a du temps pour avoir accès aussi à des travailleurs sociaux. On a du temps pour être capable de donner des services de manière humaine. Et je pense que vous êtes tannés qu'on ait des gestionnaires qui ne pensent pas aux droits humains. Et j'espère que vous allez être avec Québec solidaire pour qu'on refasse la santé de manière humaine.
Nous restons dans la santé et les services sociaux. Les personnes ayant des limitations fonctionnelles et leurs familles sont confrontées à des problèmes d'accès aux services de santé et aux services sociaux offerts à l'ensemble de la population. Nous constatons que les difficultés d'accès à un médecin de famille, malgré une majoration reconnue dans les charges de cas, persistent. Nous constatons un manque d'équipement et de personnel disponible pour accommoder les personnes ayant des limitations. On pense à lits à hauteur ajustable, lève-personnes, brancardiers. On constate que le personnel de l'accueil à la direction est encore plus ou moins bien formé à l'approche clientèle auprès des personnes ayant des limitations. On constate des bâtiments récents, peu accessibles, par exemple, pour les toilettes et la largeur des portes, les technologies de service clientèle inaccessibles. Les campagnes de santé publique sont fréquemment peu accessibles aux personnes ayant des limitations, malgré les démarches successives des organismes communautaires de notre milieu. La question, quels sont les enjeux? Et bon, maintenant qu'on s'est présenté, je vais vous demander d'essayer d'être précis dans vos réponses au sujet énoncé. Donc, quels sont les enjeux identifiés pour lesquels votre programme propose des pistes de solutions? Monsieur Rassette, à l'autre bout.
Ouais. L'important, il faut se rappeler qu'en 78, ou plutôt en 78, il y a eu la création de cette loi, la loi OPHQ qu'on appelle. Effectivement, les législateurs l'ont bien fait, il faut le dire. Il y avait un vrai momentum qui existait. Il ne faut pas oublier non plus que vous, du milieu associatif, vous l'avez réclamé depuis des années. Et c'est une victoire que d'avoir cette loi-là. Mais la plus grande victoire, c'est celle d'avoir inclus dans la Charte des droits et libertés en 1978 le motif handicap et moyen de pallier au handicap.
Benoît, je vais juste vous demander, peut-être c'est là que vous allez, mais de vous concentrer sur comment améliorer le manque de service, le temps ou le manque d'accessibilité dans certains soins.
Bien sûr.
Parfait.
Mais je vais arriver. Mais tout ça pour dire que cet engagement-là qu'on a pris collectivement est super important. Il ne faut pas que les lois ou les programmes qu'on développe ensuite aillent en bas de ça. C'est très important. Comment maintenant on fait pour rendre accessible le Québec? Comment on fait pour se donner une loi qui a de l'allure? Il faudrait s'inspirer de la loi en Ontario. Je regarde Matt Bénard qui est avec nous. Il faudrait s'inspirer aussi de l'American with Disability Act, qui est très clair, qui dit au Québec, on pourrait avoir une échéance claire avec des moyens, des cibles précises en un temps donné pour faire un Québec universellement accessible. Et à Québec solidaire, on est le seul parti qui pensons qu'on doit déployer une telle loi avec les droits en tête. Ça, c'est sûr. Et ça aura un impact, évidemment, sur l'architecture, les communications, mais aussi le service et les services à la population. Je rajouterais non seulement il faut que les droits...
Je suis désolé, le temps est écoulé. Merci. Prochaine personne.
Parti québécois.
Madame Poirier.
Les approches inclusives et adaptatives devraient devenir l'approche phare dans laquelle le gouvernement s'inscrit. Au Parti québécois, on croit fermement et on a trouvé un peu désolant que le Parti libéral abandonne finalement le projet de règlement en matière d'adaptation de tout ce qui est logement ou édifice en tant que tel. On doit effectivement faire un effort important pour rendre justement accessible et adapter l'ensemble des bâtiments publics. Il est absolument incroyable encore que l'accès à un édifice public ne puisse se faire par l'ensemble de la population. L'accès, que ce soit, moi je dis toujours, l'accès que ce soit avec une marchette, une chaise roulante ou même avec une poussette d'enfant, ne devrait jamais être un obstacle pour pouvoir entrer dans un édifice public. Et c'est vraiment un objectif qu'on doit se donner comme société, de faire en sorte que tous les édifices doivent être accessibles et surtout doivent être l'être pour tous. Mais dans un deuxième temps, je vous dirais que ce qu'il faut faire en sorte, c'est que les professionnels aient plus de liberté, aient plus d'autonomie. L'approche médicale, tout tourne autour du médecin, doit être transformée pour justement mettre en valeur l'ensemble des professionnels. Un pharmacien peut faire beaucoup plus d'actes qu'il ne le fait présentement, l'infirmière aussi, et l'ensemble des professionnels de la santé. Alors, au Parti québécois, on veut mettre les professionnels au centre de l'approche, leur donner plus d'autonomie et faire en sorte que le médecin n'est pas la solution pour tout, mais bien au contraire, que l'ensemble des 200 000 professionnels puissent justement agir de façon plus autonome.
Parti libéral.
Madame Charlebois.
Alors, juste pour vous situer dans le débat, je vais commencer par l'accessibilité aux médecins. Vous savez que maintenant, en ce moment, il y a 1 100 000 Québécois de plus qui ont accès à un médecin de famille. Ça ne donne pas nécessairement l'accès aux personnes qui ont une déficience et on en est conscient. On s'est aperçu en fin de mandat qu'il y a des gens qui sélectionnent leurs patients dans le guichet d'accès. Et évidemment, les personnes qui ont différentes problématiques n'ont pas été sélectionnées. Et on s'en est aperçu. Alors, c'est pour ça que le premier ministre a pris l'engagement de, un, remettre les conditions, les critères d'admissibilité pour que les médecins continuent d'inscrire des patients, mais deux, nous allons nous prévaloir du droit d'assignation des patients. Parce qu'il faut que l'ensemble des clientèles puissent s'inscrire à un médecin de famille. Deuxièmement, c'est pour ça aussi que nous allons former 2000 infirmières praticiennes spécialisées. Excusez, j'ai de la misère avec ce mot-là. Parce qu'il faut effectivement, c'est pas juste que ça tourne autour du médecin, mais il faut que l'ensemble des soins suivent. Et l'infirmière peut certainement être une intervenante pivot autour de tout cela. Concernant l'accessibilité au bâtiment, Carole, je m'excuse de te dire que tu as manqué un chapitre au Parti libéral. Nous avons fait une réglementation qui vise justement à faire en sorte que les bâtiments de plus de 2 étages puissent avoir justement une conception qui va faire en sorte qu'on va devoir voir l'accessibilité minimale ou l'adaptabilité. Et ils ont jusqu'au 1er septembre 2020, tous les constructeurs, pour s'y conformer. C'est une obligation maintenant. Et pour ce qui est des bâtisses déjà existantes, on est en train de travailler avec l'OPHQ pour avoir un portrait exact. Je vois le temps filer. Juste vous dire qu'on a déjà investi des sommes pour les sites touristiques, mais aussi pour les 800 établissements dans un rayon de 5 ans.
Marilyn Picard, de la Coalition Avenir Québec.
Nous, on le voit souvent, les hospitalisations de ma petite cocotte. Les infirmières sont complètement débordées, sont épuisées. On en perd beaucoup qui sont super, super performantes pour s'enlever du réseau parce qu'ils ne sont pas capables de dealer avec, avec l'horaire de travail, les heures supplémentaires obligatoires. Et ça, c'est inconcevable. On se doit d'avoir des bons soins de santé. Nos infirmières se doivent d'être toutes là quand ils travaillent. Ils doivent être allumés, ils doivent être concentrés. On arrête complètement à la Coalition Avenir Québec le temps supplémentaire pour les infirmières. On va se réorganiser en mettant aussi des actes aux professionnels de la santé, physio, ergo, ortho, pharmaciens, qui vont avoir plus d'actes pour alléger le fardeau aux hôpitaux et aux patients. Donc, ça va être juste redistribué autrement. Donc, ça va permettre vraiment beaucoup plus de meilleurs soins.
Alors, emploi et revenus de base. Petite mise en contexte, intégration et maintien en emploi. Plusieurs personnes ayant des limitations fonctionnelles ne sont pas en mesure d'occuper un emploi sans un soutien accordé à l'employeur. Celles qui travaillent peinent à sortir de la pauvreté. Dans le cadre de la mise à jour de la stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées, la COFAN a proposé notamment que soient documentées les mesures incitatives pour les travailleurs et travailleuses. Le budget 2018-2019 nous a permis de constater la faiblesse des investissements à venir dans les programmes. On pense aux contrats d'intégration au travail, aux programmes de subvention aux entreprises adaptées. Augmentation compensant à peu de choses près le surcroît occasionné par l'augmentation du salaire minimum. Depuis 4 ans, nous travaillons pour que les promesses successives des ministres responsables se réalisent. Malgré cela, aucune stratégie digne de l'article 63 n'est à ce jour annoncée. Question. Quels sont les éléments forts sur lesquels votre gouvernement bâtira la future stratégie pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées pour améliorer les services et injecter le financement adéquat?
Québec solidaire.
Ce qu'il faut faire, il existe déjà des programmes pour soutenir l'inclusion au travail. Il faudrait que l'État soit exemplaire d'abord. Il existe le programme d'accès à l'égalité en emploi, qui est notamment supervisé par la Commission des droits de la personne. Ce programme-là pourrait avoir davantage de dents. Actuellement, des plans d'action sont produits année après année ça fait récent. C'est récent, en fait. C'est pas vrai. Ça a pris du temps avant que les ministères et les agences assujetties produisent des plans. Mais ces plans-là ne sont pas vraiment respectés, ne sont pas vraiment ambitieux. Il faudrait redonner de la force à ce programme d'accès à l'égalité. Évidemment, si l'État embauche davantage de personnes en situation de handicap, ça va faire tache d'encre. Et c'est pas juste plus d'opportunités dont on a besoin, il faut aussi former les fonctionnaires, il faut former les employés de l'État aux questions des droits fondamentaux, mais aussi sur l'accessibilité universelle. Donc, un peu, d'un côté, les opportunités, de l'autre côté, cette espèce d'huile là, qui nous permet que la sauce prenne. Donc, les gens pourront mieux adresser des services à la population en situation de handicap et aussi incluront davantage de personnes en situation de handicap dans leur rang.
Coalition Avenir Québec.
Dans notre beau comté de Soulanges, on a une super entreprise qui s'appelle le Croissant 21. C'est un papa qui a fait une entreprise pour dégager son fils qui est handicapé, qui a la trisomie 21, pour le dégager de l'aide sociale. Il voulait que son fils soit complètement autonome et puis puisse fonctionner. J'ai beaucoup parlé avec le propriétaire et puis il me racontait comment que la structure, toutes les subventions qui sont autour des entreprises sont vraiment inadéquates en ce moment. Après un gros 15 ans de Parti libéral, on se doit de faire mieux, on se doit vraiment de changer cette situation-là. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre au Québec, je crois que ce serait à tous de gagner en faisant des lieux plus accessibles de travail, de rendre tout l'environnement plus inclusif pour que les personnes handicapées puissent contribuer comme ils peuvent pour la société.
Parti québécois.
Il ne serait pas temps que le Québec sorte de cette torpeur où la personne handicapée est mise de côté. Ce serait pas tant qu'au Québec, on puisse dire qu'il y a une main-d'œuvre active qui est inactive. Il serait pas tant qu'on se décide à utiliser l'ensemble de vos ressources que vous êtes comme une ressource de main-d'œuvre égale aux autres. J'ai trop vu dans les dernières années des mauvaises expériences de travail. J'ai vu quelqu'un aller faire son stage au Conseil du Trésor, aller faire de la programmation pour la régie de l'assurance maladie, mais la journée qui est venue passer les examens de la fonction publique, bien, il a été rejeté. Mais on était bien content que cette personne-là puisse aller reprogrammer, justement, en langage qui vous convient, l'accès à la régie d'assurance maladie. C'est une révolution qu'on doit faire au Québec de l'accessibilité au travail des personnes handicapées. Et ce n'est pas par juste des mesurettes comme le programme Passe Action ou d'autres mesures comme la mesure ITSA qui va faire en sorte qu'on va justement passer au travers. On a besoin d'une main-d'œuvre active, on a besoin de tout le monde au Québec, on a besoin de vos cerveaux, on a besoin de vos idées. Et moi, je vais vous dire, ce que je nous propose, c'est de lancer cette révolution tous ensemble et de faire en sorte qu'on donne une vraie place dans un premier temps, Benoît, tu as raison, dans un premier temps dans l'État. L'État doit être le premier à lancer ce chantier et faire en sorte que les entreprises, et pas seulement que les organismes communautaires, parce que c'est bien souvent là où vous avez le seul accès, eh bien, c'est l'État qui doit être le premier à lancer le programme d'action, mais aussi faire en sorte que les entreprises deviennent, elles aussi, de véritables partenaires et que vous deveniez des personnes actives sur le marché du travail, mais des personnes dans le respect et la dignité.
Merci, Mme Poirier. Mme Charlebois.
Alors, de notre côté, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez certainement vu la mesure d'emploi que François Blais a, la loi qu'on a votée au printemps. Et cette mesure-là, c'est une mesure très importante parce qu'au Québec, en ce moment, là, vous le savez, on est au plein emploi et on ne peut pas se priver de qui que ce soit qui veut travailler. Tout le monde doit pouvoir contribuer à la société. Tout le monde a sa place au soleil. Alors, ce qu'on a fait, on a injecté 10 millions de dollars pour justement faire en sorte que nous puissions soutenir l'intégration des personnes handicapées en emploi. On va créer près de 1000 emplois destinés aux personnes handicapées par l'intermédiaire de, justement, le contrat d'intégration au travail. Il y a aussi le programme de subvention aux entreprises adaptées et la mesure de subvention salariale qui est très importante parce qu'en fonction du handicap, j'ai des entrepreneurs, il y a, oui, Croissant 21, mais il y a aussi Canadian Tire qui est à Valleyfield, mais qui emploie des gens de mon comté qui sont là, qui sont capables de travailler. Il y a une mesure de subvention à la mesure de... On détermine combien l'employé, combien son apport à l'entreprise coûte vraiment à l'entreprise, puis le restant est subventionné pour arriver à la hauteur du handicap des gens. Je veux aussi vous dire qu'on va mettre 2 millions qui est prévu dans les budgets pour avoir 28 agents d'intégration qui vont œuvrer dans des organismes spécialisés en matière d'employabilité, justement pour faire une bonne intégration des personnes qui ont des handicaps. Et je veux vous dire qu'il y aura aussi des ateliers de travail, des supports de stage en milieu de travail, de la réinsertion en intégration. Bref, il ne faut pas arrêter, puis c'est en ce moment qu'on a le plus besoin de la main-d'œuvre où on peut faire l'intégration. C'est ce moment ici qu'on est capable. On a vu, il y a eu beaucoup de reportages à la télé qui démontrent à quel point vous pouvez vous intégrer dans le système, tous et chacun, mais à quel point la société y serait gagnante, et c'est
Merci,
fort important.
Merci, Mme Charlebois.
Je l'avais dit tantôt, prochaine question va s'intéresser aux revenus de base. L'adoption à l'unanimité de la loi visant principalement à instaurer un revenu de base pour des personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi est une des avancées du mandat du gouvernement actuel, répondant en bonne partie aux demandes exprimées, entre autres, par la COFAN depuis plusieurs années. Cependant, de nombreuses critiques ont été exprimées lors des débats, notamment sur le mécanisme d'accès au statut de contrainte sévère à l'emploi, notamment sur les délais de mise en œuvre, sur l'amélioration du programme pour les personnes demeurant en situation de contrainte sévère, notamment l'allocation des personnes hébergées et l'amélioration avec le programme d'aide sociale. Question. Parmi ces points que je viens d'énumérer, lesquels vous engagez-vous à travailler dans le prochain mandat?
Parti québécois.
Alors, Mme Poirier. Merci. Moi, je vais vous dire, je suis dans un comté où il n'y a pas de médecin. Alors, quand on demande à une personne d'avoir un document médical, eh bien, 50 % des gens de Hochelaga-Maisonneuve n'ont pas de médecin de famille. Puis l'autre 50 % ils en ont un, mais ailleurs que dans Hochelaga-Maisonneuve. Alors, quand on veut justifier sa contrainte à l'emploi, sa contrainte sévère, bien, c'est le chemin de Damas qui commence. Et avoir accès à un médecin devient l'essentiel. Alors, moi, je vais vous dire que dans un premier temps, il faut s'assurer de la couverture de médecins pour tout le monde au Québec. Et je veux bien que dans certains coins du Québec, on soit à 90 %. Mais il n'est pas normal. Il n'est pas normal que dans des endroits, particulièrement à Montréal, où justement on a des gens encore plus vulnérables qui sont dans la pauvreté, on n'ait pas accès à un médecin de famille. Alors, on peut bien avoir des statistiques de 85 % de couverture à travers le Québec, mais il reste quand même qu'il y a des endroits ou dans des quartiers, justement, les quartiers les plus vulnérables, particulièrement Montréal-Nord et Hochelaga-Maisonneuve, où on est en bas de 50 % de taux d'avoir accès à un médecin, où il n'y a même plus de cliniques qui sont capables d'offrir du sans-rendez-vous. Alors, imaginez la difficulté d'aller chercher un document. Alors, au Parti québécois, on s'engage justement à l'accès aux médecins, l'accès à des infirmières spécialisées, les super-infirmières. Et justement, cet accès-là va pouvoir faire en sorte que les personnes qui ont besoin de faire remplir le fameux document compliqué de l'aide sociale, qui est en général à peu près tout le temps contesté, eh bien, on va s'assurer que les gens puissent avoir accès à la santé, mais aussi à l'accès à des gens qui sont capables de remplir les documents et des documents qui vont passer à l'aide sociale.
Merci. Coalition Avenir Québec.
Tout d'abord, je trouve personnellement qu'une personne handicapée ne devrait même pas être sur l'aide sociale. Je trouve que ce programme-là, on doit trop justifier plein de choses. Je trouve que c'est vraiment... Nous, ici, à la Coalition Avenir Québec, on a beaucoup misé. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière. On a fait une super annonce où est-ce qu'on s'engage à rétablir une forme d'équilibre entre les familles naturelles et les familles d'accueil pour les parents qui ont des enfants lourdement handicapés, selon la sévérité de l'handicap et selon le revenu familial. Ça me tient particulièrement à cœur parce que c'est une cause que j'ai tenue à bout de bras avec parents jusqu'au bout. Je suis vraiment, vraiment fière de cette belle mesure qu'on a annoncée cette semaine. Et aussi, ça se rattache aussi avec les proches aidants, comme j'expliquais tantôt, où est-ce que les proches aidants doivent être mieux soutenus. On a besoin, chaque personne qui est handicapée a besoin d'un proche aidant, et on se doit, encore là, de soutenir vraiment mieux les proches aidants, d'avoir une politique, d'avoir un coordonnateur de services pour les proches aidants. C'est super important. On a aussi amélioré le crédit d'impôt, on le double pour les proches aidants. Donc ça, c'est un engagement qu'on a pris pour vos familles.
Parti libéral.
C'est moi. Alors, non seulement on veut aider les personnes qui sont en situation d'être capacitées de combler un emploi, mais on veut aussi venir en aide à ceux qui ne sont pas aptes, qui ont des contraintes sévères à l'emploi. Et justement, dans la loi qu'a formulée François Blais, que vous avez vue en emploi solidarité sociale, il y a là une mesure qu'on appelle une mesure d'instauration progressive du revenu de base pour des personnes qui ont des contraintes sévères à l'emploi. Et vous vous souviendrez que dans ce projet de loi-là, nous avions annoncé que dès 2018, il y aurait des augmentations de l'ordre de 876 $ par année et que ça allait grandir jusqu'en 2023. Dans nos engagements de campagne électorale, on a dit qu'il n'y aura pas de progression. On commence déjà avec une augmentation de 5 280 qui va s'ajouter à l'aide sociale existante parce qu'on considère que les personnes qui n'ont pas la capacité d'être en emploi, qui ont des contraintes sévères à l'emploi, n'ont pas à vivre cette période de transition. Et c'est pour ça qu'on en a fait un engagement qu'on a chiffré. Et pour nous, il est important de valoriser la participation sociale, mais il est aussi important de valoriser les personnes qui ont des contraintes sévères à l'emploi, faire en sorte qu'ils n'aient pas à répéter à tous les ans ou à tous les deux ans, aller réexpliquer à Emploi Solidarité Sociale que leur handicap est permanent. Quand on est lourdement handicapé, on n'a vraiment pas besoin de faire ça. Alors, c'est déjà prévu dans les mesures d'Emploi Solidarité Sociale. Pour ce qui est des engagements autres, parce que ce n'était pas le sens de la question, je vais retenir ma réponse pour tantôt, mais nous, ce n'est pas 22 millions, mais plutôt 45 millions, puis je vous expliquerai tantôt c'est quoi qu'on veut faire pour justement les parents qui ont des enfants lourdement handicapés, la ressource, la part intermédiaire et tout, mais ce n'est pas le sens de la question en ce moment, alors je n'irai pas là-dessus tout de suite.
Québec solidaire.
Alors évidemment, j'avais d'emblée parler de toutes ces personnes au Québec qui n'ont pas assez pour vivre. Il faut regretter encore que les personnes en situation de handicap se trouvent souvent dans le premier quintile, donc qu'ils ont très peu pour vivre. Et il y a une des mesures qui nous interpelle, qui pourrait être extrêmement forte pour tout le monde, peu importe qu'on soit un moment en situation de handicap, éloigné de l'emploi ou qu'on revienne, parce que faut pas oublier ça, hein? Nos trajectoires de vie, là, c'est pas une ligne droite tout le temps. Alors, on propose un projet pilote pour un revenu minimum garanti, un vrai cette fois-ci, qui serait pas conditionnel avec toutes ces rapports que vous devez faire remplir ou des situations qui changent. Et on est responsable quand même, on le ferait comme ça était tenté en Ontario et ailleurs. Un projet pilote d'abord pour ce premier mandat de 4 ans. On va voir ensemble les effets. Vous allez voir autant les personnes en situation de handicap que les personnes qui auraient quelques limitations vont voir leur vie s'améliorer. Cette idée, d'ailleurs, est portée depuis fort longtemps par les mouvements et malheureusement, on se rend toujours compte que les gouvernements la proposent à rabais d'une manière très compartimentée où ça prend des tonnes de documents à remplir et finalement, on se rend compte qu'il y a des tonnes de gens qui passent dans les trous et qui demeurent pauvres. Alors, je vous inviterai à réfléchir à cette proposition qu'on fait à Québec solidaire d'un revenu minimum garanti.
Merci, M. Rassette. Un peu comme à la Place Rouge, c'est le moment de changer la garnison puisqu'on change de thème. Accessibilité du cadre bâti et de la voirie. Il y a des buildings à 2 étages qui risquent de revenir sur la table. Petite mise en contexte, donc les premières exigences. Celle-là est assez longue, mais en même temps, je trouve ça intéressant de voir d'où on vient et surtout le peu de progrès qu'on a fait. Les premières exigences d'accessibilité pour les personnes handicapées ont été introduites au Code de construction du Québec en 1976 pour les nouveaux bâtiments d'une certaine taille, sans effet rétroactif. La loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale a prévu, dès 1978, l'adoption d'un règlement afin de corriger l'ancien document en lui imposant des règles. Début des années 80, les exigences d'accessibilité pour les petits bâtiments se discutaient et il devait y avoir des avancées. Toutefois, nous constatons que, les exigences pour les bâtiments construits avant 1976, jamais mises en œuvre, ont été reconduite en 2004 lors de la mise à jour de la loi avec une date butoir en 2007 pour corriger la situation, mais rien n'a été fait. On dit en 2007. Pour ce qui est d'exigences visant l'ensemble du cadre bâti, soit explicitement les petits bâtiments, les travaux amorcés en 2004 n'ont abouti à rien, faute d'appui des municipalités, selon la Régie du bâtiment du Québec. Légalement, chaque jour, j'ai sursauté quand j'ai vu ça, et pourtant on le sait tous, mais des fois on l'oublie, légalement, chaque jour se construisent ou se transforment des bâtiments inaccessibles qui violent la Charte des droits et libertés du Québec. Notons que plusieurs de ces bâtiments sont subventionnés par l'État. Pour les cheminements et voiries piétonnes, l'absence de réglementation provinciale se reflète dans la piètre qualité de l'accessibilité. Cette absence d'exigence légale n'a connu aucune évolution provinciale depuis les années 70. Question. Quelle vision guidera votre gouvernement en matière d'accessibilité universelle du cadre bâti? Votre gouvernement s'engage-t-il à conditionner le soutien financier de l'État au cadre bâti et voirie piétonne au respect de normes d'accessibilité convenues avec l'industrie et le milieu communautaire? Donc, on s'est entendu sur certaines normes. Est-ce que les subventions seront octroyées sous condition que ces normes soient respectées? Voilà la question.
Québec solidaire.
Monsieur Rassette.
J'ai déjà exposé un peu cette vision qu'on a d'une loi sur l'accessibilité universelle, mais je dis cette vision qu'on a, c'est faux. C'est une vision que beaucoup de gens dans la société civile ont. C'est une vision qu'ont beaucoup d'activistes, et c'est ce qui a fait ses preuves de par le monde. On le sait. J'aimerais qu'on voit cette voie comme une loi, c'est un beau lapsus en tout cas, donc cette voie ouverte, donc qu'on voit cette loi comme un possible momentum sur la question de la mise en accessibilité du Québec. Il faudra qu'en amont de la loi, il y ait une vaste consultation, non seulement des groupes, mais aussi des personnes en situation de handicap et du milieu de la recherche. Et quand on déposera cette loi sur l'accessibilité universelle, eh bien là, elle viendra avec des contraintes. Et c'est là que je viens pour le cadre bâti. Je ne sais pas s'il faut empêcher le financement à des entreprises qui sont délinquantes face au code du bâtiment, mais une chose est sûre, s'ils ne s'engagent pas à rendre accessible ou si leurs conditions ne le sont pas, il y aura des contraintes. Ça tombe bien, ça peut même être des contraintes financières, ça peut être même des pénalités. Cet argent-là retournera dans le pot pour qu'on ait un Québec davantage accessible. C'est ce qui se fait actuellement en Ontario. C'est ce qui se fait aussi aux États-Unis. Et cette loi qui est actuellement non adaptée, là, mais déjà présentée au Canada, propose quelque chose d'équivalent. Alors, je vous propose, avec une loi sur l'accessibilité universelle, qu'on redevienne des leaders, qu'on reprenne la place d'avant-garde qu'on a déjà eue dans les années 70 sur la question de la mise en accessibilité.
Monsieur Rassette, comme oui. J'ai posé les deux questions en même temps, parce que ça se ressemblait pas mal, si vous voulez aller du côté voirie, trottoir, ou vous pouvez le faire.
Mais il me reste 5 secondes.
Non, il vous reste 2 minutes.
Ah oui, OK. Bon, donc
on est généreux comme ça, nous autres.
Ah oui, je vois ça. Faut dire que Luc est un animateur qui sait rebondir. Alors, je vais rebondir parce qu'on n'a pas le droit de le faire là, dans les rues, là, juste vous le dire. C'est pas facile, on ne sait pas encore quel statut on a quand on a une aide à la mobilité motorisée. C'est d'ailleurs une autre erreur de notre ancien gouvernement. On savait depuis longtemps qu'il était possible, il était toléré d'emprunter, par exemple, dans les villes, le réseau cyclable. Ça a été formalisé à Montréal, par exemple, avec un règlement qui a permis aux aides à la mobilité de circuler sur le réseau cyclable, mais le problème au niveau national demeure. Est-ce que quelqu'un qui a une aide à la mobilité est un char ou un individu? faudrait choisir. Parce que dans la vie de tous les jours, ça a toutes sortes de problèmes. Et en ce moment, la vision qu'on défend à Québec, c'est que c'est un char quand on vient le temps de donner des pénalités puis pas circuler sur certains endroits. Puis c'est un individu, là, quand on n'oublie pas que c'est une personne dite vulnérable et qu'elle peut faire des choix dans la vie. En tout cas, il faut falloir se brancher. Et malheureusement, le projet pilote qui a été proposé par un ministre de votre gouvernement, un ministre du gouvernement libéral, a semé en plus de la confusion. On ne sait pas où on en est. Les gens qui sont hors des grands centres ont de la difficulté parce qu'évidemment, quand on est sur des réseaux routiers avec certaines règles là, qui ne sont pas en ville, tout ça, on doit porter un fanion. Il y a des vitesses qui sont différentes. On a entendu des gens qui ont eu des tickets parce qu'ils se déplaçaient en état d'ébriété, par exemple. Enfin bref, il faudrait statuer sur le statut des AMM au Québec une fois pour toutes, en reconnaissant la dignité, la sécurité des personnes et surtout leur possibilité d'exercer les mêmes droits que les autres.
Alors, vous aurez remarqué là, que pour les trois autres personnes, vous aurez 4 minutes et là-dessus, vous pouvez épiloguer sur tant le bâti architectural que la chaussée, les trottoirs et autres mesures qui nous permettent de circuler.
Je crois personnellement que si il y a des lois et puis il n'y a pas d'amende qui vont avec, c'est sûr qu'elles ne sont pas respectées. C'est une des grandes raisons que je m'implique en politique. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, dont celle-ci. J'en fais mon grand cheval de bataille. Je veux être la voix des personnes handicapées directement à Québec pour changer plein de choses comme celle-ci. Qui font pas de sens. Personnellement, c'est vraiment inconcevable que les lieux soient pas adaptés et que on doit penser avant de se diriger à quelque part pour voir est-ce que c'est adapté, est-ce qu'il y a des marches. Puis là, on va voir sur Google Street pour voir si il y a des marches. Il y a des marches, mais je peux pas y aller. Ou bien j'ai besoin d'un aidant qui est fort. Ça fait pas de sens. Ça fait vraiment pas de sens. Puis quand on voyage dans les autres pays, on voit que les autres pays sont super adaptés. C'est accessible. Je pense qu'à Cuba, c'est plus accessible qu'ici. Là. Donc, il y a vraiment un gros chemin à faire. Je veux, comme je vous ai dit, être votre voix. Je veux porter cette cause directement à Québec.
Parti québécois. 4 minutes.
C'est bien fait, pareil. Ça arrive souvent. Hein?
Je suis très fière du travail que mon collègue Dave Turcotte a fait, le député de Saint-Jean, qui est porte-parole en matière de services sociaux, qui était le collègue de Mme la ministre. Lorsqu'ils ont décidé de faire un mandat sur l'état des commerces et des industries pour en faire un inventaire et qu'on ait enfin un portrait de qu'est-ce que ça veut dire l'accessibilité commerce. Le gouvernement avait accepté de mettre 10 millions de dollars, moi je le nomme, pour donner un premier jet, une première intention pour justement qu'on puisse avoir accès au commerce. Mais entre-temps, il faut quand même en faire l'inventaire. Et cet inventaire-là, il est en cours. Et cet inventaire-là va nommer l'importance du problème d'accessibilité, particulièrement dans les commerces. Il y a là quelque chose qui m'étonne toujours. Si je suis un commerçant, comment ça que j'ai besoin qu'on fasse un état de situation fait par le gouvernement pour donner accès à mon commerce? Il me semble que je devrais être le premier à me poser la question. Si je veux de la clientèle, je devrais donner accès à la clientèle. Et ça, il y a là quelque chose d'assez inimaginable en termes de mise en marché d'un commerce. Je vous dirais que, deuxièmement, en ce qui concerne l'accès, tout au niveau du bâtiment, au niveau de l'accès logement, je suis toujours très fière de souligner le travail qu'on a fait il y a plusieurs années au niveau d'un équipement de bâtiment qu'on a dans Chalaga-Maisonneuve, qui est la station numéro 1, où c'est la première fois où on a fait en sorte que 50 % des logements soient adaptés ou adaptables. Et c'est une coop de 75 logements où on a réussi ce tour de force, parce que c'était un tour de force, de convaincre les constructeurs, et on était dans du logement social, et de faire en sorte que 50 % de ces logements-là soient adaptés et adaptables. Et je vais vous dire ce qui est mon désespoir, c'est qu'encore aujourd'hui, le logement à louer est bien souvent celui-là. Et le logement à louer est toujours celui qui est adapté ou adaptable. Alors, on a une nécessité d'avoir plus de logements adaptés et adaptables, mais il faut s'assurer que l'accès et surtout la communication de ces logements-là soit fait à l'ensemble du bassin des gens qui ont des handicaps et qui auraient justement besoin d'un logement qui va répondre à leurs besoins. Alors, cette offre et cette demande-là, on doit la rendre plus fluide et s'assurer de continuer à, dans le logement social, à bâtir des logements qui sont transformables et qui sont adaptables pour faire en sorte que les logements au Québec, particulièrement dans le logement social, on doit faire un effort. Et s'il y a un effort qu'on doit, dans un premier temps, effectuer, c'est s'assurer que dans nos logements sociaux, on ait une grande, grande proportion des logements qui soient accessibles.
Merci. Madame Charlebois.
C'est ça, il en restait rien qu'un dans le petit pot à tirer. Mm-hmm. Alors, de notre côté, puis vous pouvez le constater, là, peu importe les candidats, je veux dire, on est tous là pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure accessibilité, peu importe dans quel parti. Il n'y a pas un parti qui va se lever le matin en pensant qu'on ne fera pas notre maximum pour venir en aide aux gens qui aient une meilleure accessibilité. Alors, il y a des besoins en fonction des handicaps des personnes. Mettons que... Carole l'a dit, oui, il y a un état de situation qui est en train d'être fait pour ce qui est déjà bâti, puis voir comment on peut améliorer la situation. Mais comme je le disais un peu tantôt, puis je l'appelle Carole parce qu'on travaille à l'Assemblée nationale, puis à un moment donné, quand tu travailles pour le monde qui a des besoins, bien souvent, on est appelé à travailler ensemble. Dave Turcotte, c'était le porte-parole de l'opposition officielle, mais savez-vous quoi, quand il brossait, on travaillait pour trouver des solutions. Alors, moi, je suis contente de ça parce que c'est en bout de piste, c'est la population qui en bénéficie. Le 1er septembre 2018, il est entré en vigueur un règlement qui modifie le Code de la construction, chapitre 1, bâtiment visant l'accessibilité à l'intérieur des logements d'habitation. Et ça, c'est déjà entré en vigueur pour toutes les bâtisses de 2 étages et plus. Vous l'aviez dit, j'en reparlerai, mais j'en reparle. Et l'accessibilité à l'intérieur des logements, la conception, tout en minimisant les coûts de construction, mais il faut que ce soit accessible. Il faut que ce soit minimalement accessible puis adaptable s'il y a plus de besoins éventuellement. Tout ça va devoir, ne pourra plus être contourné à partir de 2020 et le règlement est entré en vigueur. Tout ça va se faire de façon progressive. Je veux aussi vous dire qu'on a investi pour les centres d'affaires commerciaux et communautaires en 2017-2018. On a fait la création d'un programme pour améliorer l'accessibilité à ces centres-là. Et dans un horizon de 5 ans, on investit 8 millions pour ces centres commerciaux-là pour donner accès à ceux qui ont des limitations pour faire en sorte que vous puissiez y accéder. Et en plus, on a annoncé un montant de 5 millions pour l'aménagement des lieux touristiques. C'est vrai, j'ai 4 minutes. Je ne sais pas pourquoi je m'énerve, là. Je peux prendre mon temps. Je voyais le 2 minutes arriver, là, puis je manquais d'air. Oui. Alors... On a investi 5 millions pour l'aménagement des lieux touristiques et culturels, puis ça va être accessible à 800 000 personnes de plus. C'était aussi important parce que au-delà de notre lieu de résidence, au-delà de notre lieu de travail, ben il y a aussi que toutes les personnes ont le droit d'avoir accès à des établissements touristiques, mais aussi des établissements culturels. Ce que je peux vous dire par ailleurs pour les infrastructures telles que les trottoirs, comme vous avez fait mention tantôt, c'est des infrastructures qui sont admissibles aux programmes municipaux. Ceci étant dit, les municipalités doivent faire des choix, doivent prioriser certains axes. Parfois, les chemins pressent plus apparemment. Mais dans mon comté, j'ai des municipalités qui ont trouvé le moyen de faire l'infrastructure d'eau potable, d'eau usée et la route tout en même temps pour faire en sorte qu'on refasse les trottoirs justement pour que ce soit adaptable, accessible pour les personnes qui ont des limitations. Puis ça arrive souvent qu'en vieillissant, les personnes aînées deviennent des personnes qui ont des handicaps et qui ont besoin de lieux pour prendre des marches. Eux autres aussi ont le droit de sortir puis de faire de l'exercice. C'est vrai aussi pour les personnes handicapées qui veulent circuler, avoir des lieux cyclables qui sont possibles d'être vus par et empruntés par les personnes qui ont des limitations fonctionnelles, les personnes aînées qui développent des limitations. Et je veux vous dire que pour les trottoirs, comme je reviens à ça, il y a des programmes d'infrastructure dans les municipalités qui sont disponibles, mais évidemment, dans l'enveloppe de la municipalité, il y a des choix à faire. Selon la grosseur du type de municipalité, c'est bien évident qu'à la Ville de Montréal, puis si je vous parle de la municipalité de Saint-Zotique, on est dans 2 eaux totalement différentes. Alors, tout ça doit être priorisé. Mais dans la petite municipalité qui est Saint-Zotique, ils ont fait leur trottoir, puis tout le monde peut y accéder.
Je ne peux pas pour rien dire. À quoi ça? Pourquoi me faire venir si je ne peux rien dire? c'est pas pour... je parle aux quatre formations, vraiment ici, là. Madame Charlebois disait tantôt, mais je suis certain, et on est tous d'accord, il n'y a personne qui se réveille le matin en disant, bon, mais comment on peut leur mettre des bâtons dans les roues, puis sans jeu de mots, et tout ça. Sauf que, même si on a de la bonne volonté, on est encore où on est. Et je pense que ce qu'on a envie, nous, c'est de sentir qu'il y a des choix qui se font en s'assurant que si nous, on n'est pas inclus, ça ne se passera pas. Non, j'avais fini mon intervention. Accessibilité des technologies numériques. Donc, on est encore dans l'accessibilité. Vous allez voir, ça se ressemble avec l'accessibilité du bâtiment. C'est juste qu'on travaille avec des câbles, des bits, puis des mégas, puis des gigas, puis des affaires. En peu de temps, l'évolution technologique a bouleversé les rapports des personnes ayant des limitations à l'information et aux services. Au-delà de l'éducation et de l'emploi, des exemples récents comme le carnet Santé Québec, la suppression des guides horaires papier au réseau de transport de la capitale à Québec, l'inaccessibilité de la plateforme Théo Taxi, la fermeture des points de services financiers en région, quelques exemples qui montrent bien que les technologies numériques ne sont plus un moyen complémentaire pour accéder aux services, elles sont en phase de devenir nécessaires. Les personnes ayant des limitations auront-elles droit à des services, des technologies, de l'information et de communication accessibles? Au public, les standards gouvernementaux d'accessibilité du Web en vigueur depuis plus de 5 ans restent aléatoires. De plus, leur portée est malheureusement limitée à l'appareil gouvernemental, excluant notamment les réseaux scolaires, les réseaux de transport, les municipalités. Au privé, l'essentiel des sites Web ne considère pas l'accessibilité aux personnes ayant des limitations. L'appui au virage numérique fourni aux entreprises par l'État n'en faisant pas, d'ailleurs, un critère. Pourtant, par des actions souvent concertées avec le milieu communautaire, certaines organisations comme IGA ou le Mouvement Desjardins offrent un accès amélioré à l'information malgré l'absence d'exigences d'accessibilité imposées aux sites Web privés, comme c'est déjà le cas en Ontario. Au communautaire, aucune exigence n'étant liée aux subventions, l'essentiel des sites Web du milieu associatif n'est pas accessible. Question. À quand une vraie loi sur l'accessibilité au Québec comme ce que l'Ontario connaît depuis 10 ans? Fait que là, on veut une date. Parce que la question, c'est à quand?
Benoît. Évidemment, vous l'avez entendu, il y a une loi sur l'accessibilité universelle qui existe ailleurs et qui comporte plusieurs dimensions. La question architecturale, évidemment, mais la question des communications aussi. Je voudrais ajouter autre chose. Bon, dans notre société, évidemment, l'information, ça peut être le fun, là, ça peut nous divertir, mais ça, c'est quand même important. Ça peut aider aussi à vivre une saine démocratie. Et le droit à l'information... c'est pas un petit droit, là. À Québec solidaire, on pense qu'on devrait ajouter à la Charte des droits et libertés une liberté d'accès à l'information. Et qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? Ça veut dire que, d'abord, le gouvernement, quand il informe sur ses programmes, quand il informe sur ses agirs, doit rendre disponible à toute sa population. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la population, il y a des gens qui ont une déficience intellectuelle, qui se trouvent quelque part sur le spectre de l'autisme, qui sont aveugles, sourd, et donc la manière dite unique de communiquer n'est pas suffisante. Ça serait une bonne idée là, que les ministères, qui ont fait du travail quand même dans les dernières années, qu'on accélère la chose parce que le droit à l'information, comme je vous le disais, ce n'est pas un droit ordinaire. Il faudrait aussi, dans la loi, être précis sur la mise en accessibilité, sur la mise en disposition de l'information en médias substituts. C'est super important et ça ne doit pas être oublié, même si souvent... c'est l'architectural qui nous saute d'en face. Ah oui, bien, écoutez, c'est parce que moi, je me suis habitué au rythme de 2 minutes, là, puis là, vous voyez, je suis un peu tout débalancé avec l'amour soudain du Parti libéral à mon endroit. Donc, je suis désolé. Non, mais ça vaut la peine que tu me reprennes parce qu'il y a une chose extraordinaire qui s'est passée dans les dernières semaines. On a fait l'annonce avant d'entrer dans la campagne de nos propositions pour les personnes en situation de handicap. En fait, je suis très heureux de dire qu'on est le seul qui avons une plateforme probante pour l'inclusion des personnes en situation de handicap de tous les partis. On est aussi le seul parti qui présente 3 personnes en situation de handicap qui ont été élues par leur association, qui font une vraie démarche de militants. Je rappelle ça. Mais la chose qui m'a le plus bouleversé, c'est quand on a présenté cette reconnaissance de la langue des signes québécoise, j'ai eu des tonnes de témoignages. À peu près 75 000 vues de la vidéo que j'ai publiée. Et il y a des gens qui m'ont dit, on en parle souvent de la reconnaissance de la LSQ, mais maintenant je marche, là, puis je sens qu'on me reconnaît. Je sens qu'il y a quelque chose comme un momentum. Et je vous le dis, le 2 octobre, là, peu importe la situation où sera Québec solidaire, peu importe le pouvoir qu'on aura, on va le prendre parce que vous le demandez fort et on va s'assurer que tous les partis entendent et finalement rendent possible la reconnaissance de la langue des signes québécoise.
Claude, qui est dans le secret des dieux, me dit qu'on devrait y revenir tantôt, lui qui a vu les questions.
Parti libéral.
Madame Charlebois.
Alors, pour ce qui est du numérique et de l'information, vous savez qu'on a adopté comme gouvernement il y a fort longtemps l'accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées. Je veux aussi vous dire qu'on est aussi sensibilisé que toutes les formations politiques à cet enjeu-là. Évidemment, il y a du travail à faire. Tout n'est pas parfait. Je vous ai dit qu'on avait travaillé sur plusieurs aspects. Celui-là mérite une attention particulière. Et on doit avoir une attention particulière aussi, non seulement pour les services gouvernementaux, mais pour l'ensemble des organisations qui sont dans le Québec et qui nous donnent des services. Alors, pour que la situation soit corrigée sur le plan gouvernemental, on a lancé en juin 2018 le plan d'action pour l'accessibilité et le partage des données ouvertes des ministères et des organismes publics. C'était l'engagement 7. Et afin d'assurer l'inclusion sociale en améliorant l'accessibilité au site Web, le secrétariat du Conseil du Trésor va moderniser les pratiques gouvernementales en matière d'accessibilité Web. Je veux aussi vous dire que nous allons actualiser les standards sur l'accessibilité Web et se rendre conforme aux règles d'admissibilité des contenus. Mais au-delà de tout ça, parce que je suis une fille de terrain et je me déplace dans divers organismes et je suis allée à divers endroits. Je peux vous dire que le soutien technique, tout ce qui est le web, mais aussi toute la technologie, on le voit toujours comme un obstacle à franchir, mais moi, je peux vous dire que pour les personnes qui ont différents handicaps, dont l'handicap visuel, il y a beaucoup de choses qui maintenant, puis vous devez le savoir, au-delà de faire la lecture en braille, mais il y a des gens maintenant qui, par ordinateur, font beaucoup de choses. Moi, j'ai été estomaquée de voir tout ce qui était possible d'être fait, mais aussi pour d'autres personnes avec d'autres types d'incapacités qui ont fait en sorte que toute la technologie est devenue une grande mesure d'aide. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on souhaite, c'est favoriser l'inclusion des personnes et certainement qu'on va sensibiliser les organismes, les municipalités, les entreprises à faire de même, mais il faut qu'on commence par donner l'exemple au gouvernement. Il y a beaucoup de travail à faire là. On a commencé, comme je vous le disais, en lançant en juin 2018 le plan d'action sur l'accessibilité et le partage web. Je pense que c'est déjà un bon signe, puis je pense que quand on donne l'exemple, on est capable de demander aux autres ensuite de faire leur propre geste. Mais là, on avait un enjeu à faire. Puis je reviens sur le plan des engagements gouvernementaux, le fameux PEG qu'on appelle. Vous irez voir le bilan de ce qui est sorti de là. Honnêtement, il y a eu un bon taux de rétention sur les engagements qu'on avait à faire. On a lancé la deuxième phase. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça en fait partie. Alors moi, je garde confiance et je sais que peu importe qui formera le gouvernement, et nous espérons le reformer à nouveau, on va s'attaquer à cette dimension-là parce qu'on sait que la société d'aujourd'hui est axée sur les technologies, sur le web et plein d'autres choses. Il faut être capable de justement donner l'accessibilité à tous ceux qui en ont envie. Merci.
C'est voulu, et je vais poser la même question aux autres. Madame Charlebois, le fait que vous n'avez pas mentionné quand la loi cadre, c'est un oubli ou c'est voulu?
C'est ni voulu ni un oubli. C'est que moi, je ne prends pas d'engagement au nom de ma formation politique seule et vous ne l'avez pas vu dans les engagements, alors je ne peux pas vous répondre à ce moment ici. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un plan des engagements gouvernementaux. On a des choses, on a mis des lois pour l'accessibilité. Vous désirez une loi cadre comme souhaite Québec solidaire. Nous, on n'est peut-être pas rendu là.
Coalition Avenir Québec.
Madame Picard.
J'aimerais bien travailler le 2 octobre sur une belle mesure pour encadrer l'accessibilité au tout Internet, dans le fond. Internet est tellement nécessaire dans notre société, comme l'électricité l'était avant. On a encore des problèmes en région. Il y a encore des gens qui n'ont même pas d'Internet. Donc, on se doit d'offrir premièrement Internet à tous. Et aussi, les autres provinces, les autres pays le font. Ils ont des sites accessibles. Donc, je ne comprendrais pas pourquoi nous, ici, on ne peut pas le faire. Ça prend de la bonne volonté politique. Et puis, je crois que notre formation est à l'écoute de tout ça. Donc, je suis très rassurée sur ce point. Merci.
Madame Poirier.
On va commencer par se faire élire le 1er octobre. Et puis, on donnera des dates après. Moi, je vais vous dire, j'ai été assez impressionnée par le document que j'ai retrouvé sur le site de la COFAN, qui est « Accessibilité du web, de la standardisation à l'utilisabilité en tant que telle », qui est un document phare qui me semble être, ça devrait être le guide d'emploi de ce qui devrait être fait. Entre autres, dans les conclusions, je vous lis la petite phrase qui est venue m'interpeller. L'État québécois doit soutenir une véritable culture de l'accessibilité et de l'utilisabilité, notamment pour les personnes ayant des limitations, en s'inspirant de démarches telles que celles mises aux États-Unis. Et dans ce document-là, on a fait faire des tests à différents endroits, dont chez Emploi Québec, où la note est de 2 sur 5, parce que ça n'a pas fonctionné d'avoir accès à le site d'Emploi Québec. Alors, si le gouvernement n'est pas capable de donner des services aux personnes, bien, je pense que la première accessibilité doit être là. Et si les sites gouvernementaux qui sont là pour donner des services, je regardais le site d'Hydro-Québec pour ne savoir que tout le volet sur les vieux réfrigérateurs, c'est un échec aussi. D'autres sont des réussites, il faut le dire. Il y en a d'autres qui ont été des réussites, mais il y en a certains qui sont encore des échecs ou d'autres où il n'y a pas d'informations disponibles. Alors moi, je pense que l'accessibilité, là, c'est aussi l'information, c'est le fait de diffuser de l'information auprès de l'ensemble de la population du Québec. Et au niveau des technologies, eh bien là, il y a lieu de faire en sorte, et le gouvernement a établi une stratégie numérique qui ne répond pas du tout à ces dynamiques que vous exprimez. Alors, le gouvernement du Parti québécois va annoncer dans les prochaines semaines un plan numérique et je vous laisserai entendre ma collègue, la candidate de Mercier, exprimer, elle qui est experte dans ce domaine et qui m'a dit de ne pas vendre la mèche ce soir. C'est ça les campagnes électorales, il y a encore 22 jours. Concernant la loi sur l'accessibilité, je vais vous répondre une réponse qui ne fera pas votre affaire, mais qui, je ne vais pas briser l'espoir. Au Parti québécois, on croit à la nécessité d'une loi sur l'accessibilité, on croit à l'importance de cela. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure d'annoncer la date de l'adoption d'une loi? Non. Mais moi, je peux prendre l'engagement aujourd'hui qu'on s'engage à y travailler et à faire en sorte que la loi sur l'accessibilité soit une réalité dans le prochain mandat.
Alors, c'était les quatre grands thèmes. Maintenant, les organismes membres ont été sollicités pour permettre de poser des questions et ce sera le hasard qui déterminera qui des quatre formations aura la chance de répondre aux questions en question. C'est ordinaire ça. C'est un peu clair, il faut qu'elle rattrape. Là, il y a 9 questions.
Les 8 premières, il y a 2 partis politiques par question pour les 8 premières et la 9e question, que j'ai choisi, qui vient textuellement des membres de la COFAM, qui me tient particulièrement à cœur. Donc, vous aurez la chance, celle-là, la dernière, de répondre tous les quatre.
On veut peut-être piger au hasard tout de suite, oui. Pour qu'on sache qui va répondre.
Ça va être 2 minutes par personne. Coalition Avenir Québec. Transport adapté. Considérant que le budget annuel au programme provincial du transport adapté est de 96 millions depuis 2012, considérant qu'au printemps dernier, le ministre des Transports et de la Mobilité durable a annoncé que le budget alloué au transport adapté serait bonifié de 12 millions annuellement, considérant que le taux de croissance des utilisateurs de transport adapté se situe au-delà de 5 % par année, considérant que de plus en plus de personnes rencontrent des limitations fonctionnelles en raison du vieillissement de la population, selon vous, est-ce que cette bonification s'avère suffisante pour répondre adéquatement aux besoins sans cesse grandissants? Sinon, quelles sont les solutions que vous comptez mettre de l'avant pour pallier à cette croissance, tout en tenant compte de l'amélioration de la qualité de services destinés aux personnes qui utilisent le transport adapté?
Nous, ce qu'on veut faire, c'est ajouter le programme, vous connaissez déjà le programme de services à domicile. Nous, la Coalition Avenir Québec, ce qu'on veut faire, c'est d'ajouter le transport d'accompagnement dans ce programme-là. Donc, on va soutenir les bénévoles qui font les transports. On va soutenir les organismes communautaires qui défraient tous ces services-là. On parle ici des 115 actions des centres d'action bénévoles. Un petit peu conjointement avec ça, on peut parler aussi des stationnements. On sait que les stationnements ont des tarifs abusifs dans les hôpitaux, ce qui appauvrit grandement la population vulnérable comme nous. Nous, ce qu'on veut faire à la Coalition Avenir Québec, c'est les 2 premières heures sont gratuites. On n'est pas chanceux parce que souvent, ça dure plus que 2 heures, nos rendez-vous. Mais pour la journée complète, c'est de 7 à 10 $ maximum. Donc, on va tout ramener ça pour les transports aussi. Donc, c'est ça. On soutient beaucoup les organismes pour les transports adaptés.
Qui sera la deuxième personne?
Parti libéral.
J'attends bien. Alors, pour ce qui est du transport adapté, vous l'avez dit, il y a eu une augmentation par rapport à 2017. C'est réparti dans tout le Québec. Les organismes desservent à peu près 99 % de sa population, 117 000 personnes admissibles au transport adapté, 8,6 millions de déplacements. Alors, parmi les modifications qu'on a annoncées pour 2018, c'est le rehaussement du coût maximal par déplacement reconnu comme étant admissible, passant ainsi à 19 $ pour 2018, la révision de la contribution de base que vous connaissez tous très bien, outre l'augmentation qu'on accorde à chaque organisme qui a une croissance de son achalandage. Et on a mis en place une allocation spécifique pour déplacement hors territoire basée sur l'excédent du coût maximal. Tout ça pour faire en sorte que vous ayez accès de plus en plus au transport adapté. Alors, dans le dernier budget, lors du budget, on a bonifié de 110 millions de dollars sur 5 ans pour le transport adapté, dont plus de 75 % sont attribués au programme de subvention du transport adapté. Vous comprenez donc qu'il y a un autre 25 % qui est attribué ailleurs. Et pour ce qui est des organismes communautaires, effectivement, il y a là des augmentations possibles, puisqu'il y a eu 17 millions de plus de versés aux organismes communautaires cette année, 10 millions l'année dernière, ça fait un 27, pour justement venir en aide aux personnes qui font du transport pour les personnes qui en ont besoin. Mais il y a aussi toute la question, si on veut parler du stationnement comme étant inclus dans le transport adapté, nous autres aussi, on a mis cette mesure-là, on l'avait annoncé avant Coalition Avenir Québec, d'ailleurs, la gratuité pour les 2 premières heures, mais nous, on met à 7 $ par jour maximum le coût du stationnement. Et les fondations vont devoir faire leur financement autrement parce que cet argent-là, il faut le savoir, a été versé aux fondations des différents établissements. Et je veux vous dire que là, on a fait une avancée
désolé,
majeure.
C'est malheureusement tout. Tout le temps qu'on a. La question suivante, M. Guimont.
C'est encore pour le transport adapté, mais pour les régions. Parce qu'il faut savoir que c'est la Nous sommes la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec. Donc, certains groupes des régions avaient une question par rapport au transport adapté. Je vais vous la lire. Malgré ces récentes annonces, force est de constater que la problématique de l'interconnexion entre deux services de transport adapté ne semble pas retenir l'attention. Cette situation prive notamment les personnes ayant une limitation d'occuper un emploi dans la municipalité ou la ville voisine qui est desservie par un autre service de transport adapté, mais également de pouvoir utiliser les divers services qui s'y retrouvent. Il est essentiel de faciliter et permettre les déplacements des personnes ayant des limitations d'un territoire à l'autre par la mise en place notamment de points de rencontre entre les services de transport adaptés. La question, elle est très simple. Quels sont vos engagements dans ce sens? Et je pose la question à un des deux qui n'a pas répondu encore. Parti québécois.
Le dossier du transport adapté est un dossier complexe, mais un dossier insuffisant. Ma collègue a parlé du service d'accompagnement tout à l'heure, qui sont des services qui, bien des fois, viennent en appoint, justement, à ces services de transport qui sont insuffisants. La connectivité entre deux modes de transport doit devenir aussi un enjeu de notre société. On doit être capable de faire en sorte que la connexion entre, justement, dans une destination, doit être plus fluide. Naturellement, il appartient aux municipalités, et ce n'est pas une façon de s'en décharger, mais il appartient aux municipalités de mieux organiser la fluidité sur leur territoire. Mais ça, ça va toujours être avec l'appui de Québec, parce que c'est Québec qui paye cette facture-là. Alors, probablement que l'enjeu doit être de relier dorénavant les budgets à faire en sorte que les municipalités entre elles en viennent à des accords pour assurer la connectivité entre, justement, les municipalités et assurer la fluidité des transports, particulièrement en matière de travail ou même en matière d'accès à la santé. Alors, je pense que le fait de relier les subventions gouvernementales à des enjeux de connectivité devrait être le but de cet engagement-là.
Québec solidaire.
Bon, évidemment, il faut entendre ce que proposent et ce que racontent les organismes communautaires partout au Québec. D'ailleurs, dans certains milieux, c'est les organismes qui assurent le transport. Donc, je commencerai par ça. Souvent, ils témoignent de cette réalité-là particulière parce qu'il n'y a pas de mur à mur dans les questions de transport adapté. Je dirais une chose qui est, vous allez trouver macro, là, mais comme je ne pourrais pas exprimer les problèmes qui parfois sont techniques, parfois sont de financement sur chacun des territoires du Québec en matière de transport en commun et surtout de leur interconnectivité, je vous dirais qu'il y a un choix gouvernemental qui nous nuit tous collectivement. Celui d'investir toujours plus dans le transport routier. Ce qui se passe, c'est que contrairement à l'Ontario, on a choisi de séparer l'assiette aux trois quarts aux routes puis à 25 % au transport en commun. Et l'Ontario fait l'inverse. La plupart des pays qui ont pris le virage réellement écologiste l'ont fait aussi. Et s'il y a plus d'argent disponible pour le transport en commun, incluant le transport adapté, parce qu'oublions pas que c'est une prérogative des gens là, d'offrir un transport équivalent, c'est une manière de compenser le fait qu'on a oublié souvent les personnes en situation de handicap qu'on a pensé nos systèmes de transport. Donc, s'il y a plus d'argent dans la machine sur la question du transport collectif, il y aura plus de possibilités. Maintenant, il faudra s'organiser comme du monde quand ça va rentrer dans les municipalités. Ça, je fais confiance aux groupes communautaires pour veiller au grain, puis au monde. Parlez-vous, parce que le transport, ce n'est pas anodin, c'est essentiel pour l'inclusion puis la vie de tous les citoyens et des personnes en situation de handicap, bien sûr.
Merci. La prochaine question. Les associations de personnes sourdes et les personnes elles-mêmes revendiquent depuis plus de 25 ans pour une reconnaissance de la langue des signes québécoise LSQ et l'American Sign Language ASL. Quand votre parti sera au pouvoir, qu'une de vos priorités sera de reconnaître cette langue à part entière? Parti québécois.
Mais je pense que c'est même plus un débat. Je pense qu'on est rendu là. On est même en retard de là. Moi, je regarde encore à l'Assemblée nationale. On a eu ce débat-là pendant des années, à savoir lequel des langages de signes on va utiliser. Excusez-moi, quelle langue on va utiliser. Merci, c'est gentil. Et je pense que le consensus est maintenant établi. Alors, il faut que l'ensemble de nos entre autres de ce qu'on diffuse à l'Assemblée nationale, devrait justement faire en sorte de donner la disponibilité. Est-ce qu'on doit en faire une langue officielle? Je pense que le débat doit se faire dans notre société. Et moi, je suis prête à faire ce débat-là. Est-ce que ça doit être une langue d'usage, une langue officielle? Et là, on a un vrai débat. Et moi, je suis prête à faire ce débat-là.
Merci. Québec solidaire.
J'aurais aimé avoir l'engagement là-dessus d'un autre parti politique. Ça aurait été heureux.
Ah,
oui, c'est ça. Donc, évidemment, vous le savez, nous ne sommes pas le seul parti qui en a fait la promotion. Je veux juste rappeler que d'autres partis l'ont défendu déjà. Ça a souvent tombé dans l'oubli. Il y a même eu, dans le cadre d'une loi déposée au précédent gouvernement, le gouvernement d'avant, une discussion, il y avait une entente entre les partis, mais là, il faut arrêter d'en parler puis le faire. Et ce qu'on propose à Québec solidaire, c'est évidemment non seulement de respecter la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui, entre autres, à son article 21, demande qu'on permette aux personnes en situation, aux personnes sourdes, de pouvoir s'exprimer dans leur langue, mais aussi il faut développer une politique d'aménagement linguistique claire pour être sûr que les gens y ont les programmes nécessaires puis puissent exercer leur citoyenneté, accéder aux services dans leur langue. La LSQ, je veux juste rappeler ce que c'est la LSQ, c'est une langue qui émerge d'ici. C'est une langue québécoise. Les gens la parlent avec une fierté culturelle forte et à Québec solidaire, on est content d'être ceux qui le rappelons. Maintenant, on compte sur vous, on compte sur les autres partis pour être certain de son adoption réelle.
Si je peux me permettre, jeudi, le débat télévisé ne sera pas signé. Et à chaque élection, je m'arrache les cheveux parce qu'on entend justement des « ah oui, ah il faut, ah ». Et d'une élection à l'autre, le principe même de la démocratie n'est pas accessible pour tout le monde.
Question suivante.
Il reste 15 minutes avant que tout le monde quitte. La démocratie, c'est, je comprends vos questions, elles sont importantes, mais il faut entendre les gens dans la salle, il faut leur permettre le droit de parole.
Bien, c'est un peu ça qu'on fait présentement, parce que ce sont vos questions, vous, qu'on pose maintenant. Donc, la prochaine question touche l'accompagnement des personnes ayant des limitations, soit l'une des formes de solution à la personne dans la réalisation de ses activités courantes, de ses déplacements dans la communauté, ou pour certaines tâches personnelles, définition adaptée de ce qui est écrit dans la politique à part entière. Considérant que la politique gouvernementale à part entière reconnaît l'accompagnement comme un soutien essentiel pour certaines personnes handicapées et prévoit mettre en place des mesures d'accompagnement balisées sur le plan national, la question, comment envisagez-vous la mise en place de tels services et comment pensez-vous pouvoir les financer?
1 minute 30. Ça, les choses claires. Non, 1 minute 30.
Alors, il y a l'accompagnement, évidemment, à travers le transport adapté, mais il y a l'accompagnement avec les proches aidants qu'il faut bonifier. Et on aura des engagements à ce niveau-là. D'autres avant moi l'ont dit, la campagne n'est pas terminée, puis je ne peux pas faire le dévoilement de tous les engagements ce soir. Ceci étant dit, il est clair que les proches aidants vont être davantage soutenus, puis ces proches aidants-là font souvent de l'accompagnement. Mais il y a aussi au niveau des organismes communautaires où on est très sensibilisé au fait qu'il y a beaucoup d'accompagnement qui est fait par justement des intervenants dans les groupes communautaires. Et tout cela fait partie de nos engagements. Vous avez vu qu'on a déjà convenu que sur 5 ans, il y avait 80 millions de plus qui est consacré aux organismes communautaires. On a ajouté un 17 millions par année à tout cela. Mais ceci n'est pas la fin, hein, parce que c'est pas parce qu'on annonce des choses que ça arrête là.
Moi, je continue de travailler pour augmenter le financement des groupes communautaires et certainement ceux qui offrent du soutien en transport.
On se doit de soutenir mieux les familles, les proches aidants, ça c'est sûr. Chaque personne handicapée a besoin d'avoir quelqu'un près de lui pour s'en occuper. Donc, à la Coalition Avenir Québec, on a pris l'engagement pour les parents d'enfants handicapés de rétablir l'équilibre entre les familles d'accueil et les familles naturelles. Ensuite, autant au niveau des enfants d'âge mineur que des enfants d'âge majeur, ben c'est plus des enfants, mais pour les personnes handicapées majeures aussi. Donc, on a pris cet engagement-là. On va mettre 22 millions pour les parents d'enfants handicapés aussi pour en fonction de la sévérité de l'handicap et en fonction de la situation financière. Donc, c'est sûr que chaque personne qui est handicapée a vraiment besoin d'aide et on veut les soutenir du mieux qu'on peut.
Prochaine question, en parlant un peu d'éducation. Quelles mesures, par rapport au taux de diplomation, quelles mesures comptez-vous mettre en place pour favoriser la réussite éducative des enfants vivant avec une limitation fonctionnelle, alors qu'aujourd'hui encore, dans certaines régions, les services adaptés, interprètes LSQ ou LPC, enseignement de soutien, orthophonie, etc., sont refusés ou inexistants. Parti québécois. 1 minute et demie.
Écoutez, je vais vous dire que moi, je suis très, très fière d'avoir été vendre au gouvernement le projet d'une école-hôpital pour les jeunes 13-21 ans qui ont autisme, handicap multiple et déficience. Cette école qui va naître dans les prochaines années dans Chalaga-Maisonneuve est une école qui existe déjà, mais qui ne répond absolument pas à aucune condition minimale de respect de ces personnes. Alors, cette nouvelle école qui va voir le jour avec des plateaux de travail, et on a, moi, Lucie, dans les dernières semaines, justement, fait en sorte d'aller inaugurer des nouveaux plateaux de travail avec le centre de formation Champagna. Et on veut travailler à faire en sorte qu'on puisse poursuivre les apprentissages au-delà de 21 ans et faire en sorte de développer des compétences pour s'assurer que l'ensemble des personnes ayant des limitations, ayant des handicaps, puissent justement poursuivre leurs études, travailler et être dans la dignité. Alors, l'école Irénée-Lucie qui va voir le jour sur la Roche-Alaga, eh bien, ça va être cette école qui va être l'école de demain, une école moderne, une école totalement adapté pour les personnes qui ont des besoins différents et qui ont surtout le droit d'être actif au Québec, mais actif dans le milieu du travail.
Merci. Québec solidaire.
Ah, l'éducation, c'est si nécessaire. Il faudrait que tout le monde y ait droit, ça c'est certain. Je voudrais juste rappeler aussi qu'il y a des cohortes très importantes d'étudiants en situation de handicap qui ont eu de la difficulté à intégrer le marché du travail dans les dernières années parce que le programme de CIT, contrat d'intégration au travail notamment, était souvent vide, il n'y avait plus d'argent dedans. Et je veux bien qu'on donne la chance aux gens de s'éduquer, mais il faudrait aussi travailler pour s'assurer de leur inclusion au travail. Mon premier commentaire. L'accès à l'éducation est nécessaire, évidemment. Il y a toutes sortes de manières d'y accéder, de l'améliorer. Moi, je voudrais ajouter que j'entends les profs. On a beaucoup de profs à Québec solidaire, là, comme le PQ jadis. Et on a beaucoup de profs qui sont là, qui nous disent on aimerait ça être davantage accompagnés. Comment on accommode les étudiants en situation de handicap? Ça, il faudrait entendre ça. Il faudrait mieux éduquer tout le monde sur les droits fondamentaux, sur l'accessibilité universelle, parce que c'est souvent les attitudes, les premières, qui sont potentiellement discriminatoires ou qui font que ça ne se réalise pas, qu'on n'a pas accès aux services. L'autre chose, évidemment, on a beau changer nos perceptions, s'il manque de personnel, ça ne marche pas. C'est pour ça que Québec solidaire estime que 2300 professionnels manquent et devraient être ajoutés dans tous les services, dans toutes les écoles du Québec, que ce soit des orthopédagogues, des orthophonistes, des spécialistes en psycho-éducation. C'est comme ça qu'on va réaliser l'inclusion au scolaire.
Merci.
Prochaine question.
Oui, prochaine question. Vous en avez traité plusieurs fois cette soirée, mais je la répète parce que c'est vraiment quelque chose là, qui intéresse les membres qui sont dans la salle ce soir. C'est par rapport au soutien aux familles. Que proposez-vous comme solution pour soutenir et améliorer la conciliation travail-famille pour les parents qui doivent tous deux, travailler et jongler avec les multiples rendez-vous pour leurs enfants ayant une limitation fonctionnelle? Parti libéral.
Et que je suis contente de répondre à cette question-là parce que c'est un dossier que j'ai beaucoup travaillé et vous savez qu'on continue de travailler dessus. Et on a mis sur pied le supplément pour les parents d'enfants qui ont des enfants lourdement handicapés et qui représente environ 1 000 $, ce qui fait qu'à cette somme-là, nous sommes venus faire en sorte que s'ajoutera, parce que vous savez, il a été dit que c'était une ressource limitée, c'est faux. Si vous répondez aux critères, vous allez être admissible, c'est pas un budget limité. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour ceux qui ne vont pas dans cette catégorie-là, on ajoutera 300 $ par mois à leur chèque, ce qui va donner un total de 36 millions de $ juste pour ces catégories-là. Et parce que les parents ont besoin, il y en a qui ne peuvent pas retourner sur le marché du travail, évidemment, j'ai bien compris le message. Et pour ces familles-là, on pense qu'il est essentiel de venir donner un meilleur soutien financier. Mais à tout cela, il y en a d'autres qui veulent des services. Ils ne veulent pas juste de l'argent, ils veulent des services. Alors, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est d'optimiser nos services, offrir 1 000 places supplémentaires dans les centres de jour. C'est en plus des 900 qu'on a déjà annoncés. Alors, ça fera donc 1 900. Ce qui va faire que ce 1 000 places-là, c'est 12 millions à terme à ajouter. 200 places supplémentaires en répit partout au Québec, ça fait un 8 millions à terme de plus. Parce que c'est bien beau donner de l'argent aux parents qui ont des enfants lourdement handicapés, mais il faut aussi donner des services. Merci.
Madame Picard.
C'est mon dossier aussi.
Oui, on est prêt, parfait.
Bien, j'en ai un petit peu parlé tantôt. Le soutien pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels qui a été créé, il y a 54% des cas qui ont été refusés. Donc, ce que nous, on veut faire, c'est de le moduler en fonction de la sévérité de l'handicap et puis en fonction des revenus des parents. Pour les enfants mineurs et majeurs. On veut mieux supporter toutes les familles qui vivent avec le problème, justement, de conciliation travail-famille. Je sais de quoi je parle. On a parlé de 22 millions pour cadrer pour les enfants qui ne sont pas acceptés en ce moment pour la mesure exceptionnelle. On va aussi lancer des travaux avec les familles, avec les ministères concernés pour rétablir l'équilibre entre les familles d'accueil et les familles naturelles.
La prochaine question, rente d'invalidité. Présentement, on impose aux bénéficiaires de la rente d'invalidité la même pénalité que celle imposée aux personnes ayant choisi de prendre une retraite hâtive. Ainsi, alors que prendre une retraite hâtive dès 60 ans constitue un choix délibéré pour les bénéficiaires de la rente de retraite, les bénéficiaires de la rente d'invalidité ne peuvent cesser de vivre avec une limitation grave et permanente entre 60 et 65 ans. Ils n'ont donc d'autre choix que de subir cette injuste pénalité, ce qui va à l'encontre de la visée d'équité entre les travailleurs soutenue par Québec pour justifier cette modification. Le 24 février 2017, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a publié un avis dans lequel elle déclare que le fait d'appliquer sans compensation la même pénalité aux personnes qui ont reçu des prestations d'invalidité entre 60 et 65 ans qu'à celles qui ont anticipé leur retraite, constitue une atteinte au droit à la reconnaissance et à l'exercice, sans discrimination, du droit à la sauvegarde de la dignité et du droit à des mesures d'assistance financière des personnes concernées. Donc, cette pratique contrevient à la Charte. La question, à la lumière des éléments si haut exposés, que compte faire votre parti en lien avec cette pénalité discriminatoire? Coalition Avenir Québec.
La plupart des personnes handicapées, ils ont nécessairement une santé fragile et nécessairement, ils ne peuvent pas travailler 40 heures semaine. Donc, ils se trouvent pénalisés, comme le directeur général le dit. Souvent, vous ne pouvez pas épargner non plus. Donc, c'est là une grande injustice aussi. Donc, on se doit d'adapter nos programmes en conséquence. Je parle notamment aussi des proches aidants qui, eux aussi, doivent réduire leurs heures de travail pour s'occuper d'une personne handicapée. Donc, les proches aidants aussi, eux, sont impactés par le régime des rentes aussi. Donc, on veut revoir tous les programmes. On veut adapter les programmes en conséquence.
Oui, il reste deux questions.
Mais sauf que le TA, lui, n'attendra pas. Bon retour à ceux qui doivent nous quitter.
OK. L'autre partie pour la question sur l'invalidité. Parti libéral.
Bon, la question concernait aidez-moi, là, comment vous l'avez appelé?
La
rente d'invalidité. Concerne en fait ce qui est payé par le RQ, c'est ce que vous faites référence, c'est des gens qui sont devenus invalides soit par un accident ou quelque chose qui fait en sorte qu'ils ont contribué toute leur vie au RRQ puis ils veulent obtenir du fonds de retraite de la RRQ. Mais il y a toujours la possibilité, comme je l'ai dit, mentionné plus tôt, toujours le revenu de base qui est là. Alors, pour les personnes qui sont dans l'incapacité de travailler toute leur vie, il y a toujours le revenu de base dont on vous a parlé. On instaure le revenu de base et tout de suite, on n'attend pas, on donne le 5 280 par année, on ne l'étalera pas jusqu'à 2023. Pour ce qui est de la rente d'invalidité, il reste que tout ça est contrôlé par la Régie des rentes du Québec, et c'est pour ceux qui ont travaillé une partie de leur vie, en tout cas ce que moi j'en comprends, je vois des noms dans la salle, mais pour ça, à 60 ans, ceux qui ont accès à la Régie des rentes du Québec, c'est que c'est ceux qui ont travaillé, mais il y aura toujours le revenu de base qui peut s'appliquer à eux.
La dernière question de la soirée, une minute, puis je la trouvais vraiment c'est très pertinente, celle-là. Le titre, c'est « Représentation des personnes ayant des limitations fonctionnelles ». Plusieurs personnes de notre organisation, de nos organisations, nous disent qu'il y a de gros problèmes de fond dans notre société. J'entends malheureusement trop souvent « on ne fait pas partie du système, c'est comme si on n'existait pas et on est mis de côté tout le temps ». Tout ça malgré les beaux discours de participation sociale et les lois en vigueur. Nous demandons aux élus de représenter tous les citoyens. Nous sommes aussi des citoyens et nos représentants doivent représenter nos intérêts. Donc, en conclusion, comment vos partis pensent-ils mieux représenter les personnes ayant des limitations fonctionnelles et leurs familles à partir du 2 octobre? Une minute chaque, au hasard. Parti libéral.
C'est assez simple, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est en vous écoutant, c'est en faisant en sorte de faire parfaire nos façons de faire, c'est en faisant en sorte d'entendre chacun vos problématiques, parce que tout n'est pas uniforme. Alors, il faut sans cesse adapter. Il y a le plan des engagements gouvernementaux qu'il faut continuer à faire la promotion, mais aussi à mettre en application tout cela dans le bénéfice de, non seulement des personnes handicapées, mais aussi de leurs familles. Il y a, oui, les jeunes qui... il y a des enfants qui sont lourdement handicapés, mais il y a aussi des adultes qui sont lourdement handicapés dont il faut s'occuper. Et tant qu'à moi, il faut prendre le temps d'entendre tout ce que tout le monde a à dire, comment on peut faire mieux, puis tout est perfectible dans la vie. Et c'est pourquoi, moi, je me bats à tous les jours pour votre intégration, mais aussi pour votre participation sociale pleine et entière. Je pense que tous ceux qui veulent vous représenter ont la même intention. Alors, voilà.
Merci. Coalition Avenir Québec.
Mais c'est sûr que être les deux pieds dans votre situation à la maison, avec du gavage, des médicaments, des rendez-vous et des programmes d'adaptation de domicile, un ascenseur à la maison, je suis sincèrement, je crois, la meilleure personne pour représenter les personnes handicapées au Québec. J'ai fait beaucoup en tant que simple mère d'un enfant. Je veux représenter les personnes handicapées à Québec, directement d'en haut.
Québec solidaire?
Je vais citer Marguerite Blais. Aucun parti ne fait assez pour les personnes en situation de handicap. Elle le disait en 2012. On peut le dire encore en 2018. Peut-être qu'une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à aller assez loin, c'est que quand on teste des projets de loi, quand on développe des idées, il n'y a pas quelqu'un en situation de handicap qui nous arrête pour dire « Oh, est-ce que vous avez pensé à nous? Est-ce que vous pensez que ça fonctionne pour nous? » Je suis une personne en situation de handicap invisible, mais je travaille avec des gens en situation de handicap. Trois de nos candidats, candidates sont en situation de handicap à Québec solidaire. On est le seul parti. On aimerait beaucoup être imité, mais c'est quand même ça la triste réalité. Mais j'ajouterais une chose encore plus importante. Ce n'est pas juste la situation de handicap qui nous empêche d'avoir des élus qui pensent à nous. C'est aussi parce qu'on a de plus en plus que des gens qui sont riches. Des gens comme moi, qui viennent d'une classe populaire. Il n'y en a pas. Et donc, il faut que vous investissiez pour qu'on prenne des décisions pour vous, qu'on travaille pour vous.
Les personnes handicapées sont dans toutes les sphères, devraient être dans toutes les sphères de la vie quotidienne. Il y a un domaine dont on n'a pas parlé ce soir, c'est le loisir. Et je suis contente de voir que la gang du défi Alter Ego est là et qui font un travail extraordinaire justement pour donner une chance à tous de performer et d'avoir du loisir. Parce que pour moi, il en demeure pas moins que dans un premier temps, c'est le loisir. Et malheureusement, ces loisirs-là ne sont pas accessibles partout au Québec, partout à Montréal et partout, point. Ce que font l'équipe de Défi Alter Ego, c'est justement de rendre accessible le loisir à l'ensemble des gens qui sont en situation d'handicap. Mais malheureusement, ça ne se rend pas toujours jusqu'à la personne. Parce que cette personne-là n'a pas le loisir d'avoir des équipements à proximité.
Malheureusement, je suis obligé de faire subir le même traitement qu'à M. Rassette.
Ça aurait été agréable de continuer.
Je veux d'abord remercier les... Mais en fait, j'ai envie de vous remercier, vous, d'abord, parce que je trouve que vous avez été, somme toute, parce que c'est vrai que c'est un peu frustrant comme format, mais vous avez été respectueux. Malgré peut-être des réponses qui ne vous convenaient pas ou malgré un format qui ne vous convenait pas tout à fait. On va prendre vos questions. Écrivez à vos organismes membres. Dites-nous comment on peut améliorer ça la prochaine fois. Il y a une élection fédérale l'année prochaine. Mais il y a aussi un 1er octobre qui s'en vient avec une élection, avec un scrutin par anticipation également avant. Alors, profitez-en. Merci à Marilyn Picard et Lucie Charlebois de la circonscription de Soulanges, à Carole Poirier de la circonscription Hochelaga-Maisonneuve, Benoît Rassette de Saint-Henri-Sainte-Anne. C'est ça. On peut réentendre tout ça si vous en avez encore besoin sur le site de Canal M Vues et Voix. Et on peut revoir tout ça. Où, M. Guimond?
Ça va être sur nos médias sociaux.
Merci beaucoup. Bon retour à la maison. Merci.